Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+, ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume, j'anime l'émission que vous écoutez qui se nomme « Votre santé en trésor ». J'ai la grande joie aujourd'hui d'accueillir une nouvelle fois le professeur Pierre Marais, gynécologue et obstétricien, qui nous a déjà entretenu de l'endométriose. Pierre Marès a été chef de du service de gynécologie obstétrique au CHU de Nîmes et président de la CME, Commission médicale d'établissement du CHU de Nîmes. C'est aujourd'hui en tant que spécialiste de l'examen gynécologique que nous recevons Pierre Marès. Et j'ai intitulé le titre de cette émission « L'intimité de l'examen gynécologique ». Bonjour à vous et merci de votre présence.
Bonjour, merci.
Effectuer un bilan de santé intime, gynécologique et sexuelle chaque année est vivement recommandé pour les femmes. Cette consultation de routine va permettre non seulement de vérifier l'absence de problèmes, mais aussi de prévenir et de dépister d'éventuelles pathologies féminines, telles qu'un cancer du col de l'utérus, un cancer des seins, d'éventuelles infections gynécologiques et bien d'autres pathologies. Ces pathologies pourront ainsi être soignées plus rapidement et plus efficacement avant même l'apparition de symptômes. Le bilan de santé intime de la femme adulte consiste en des consultations régulières chez un gynécologue ou un ou une sage-femme. Ces professionnels de la santé vont effectuer un examen gynécologique complet qui va comporter un examen général, un examen mammaire, un examen pelvien, ainsi que différents examens de dépistage comme un frottis du col de l'utérus et éventuellement la prescription d'une mammographie. L'examen pelvien permet d'évaluer l'état des organes pelviens de la femme. Malgré de nombreux écrits, il est difficile de dater avec précision les premières pratiques de toucher vaginal. Toutefois, il semble que son histoire soit corrélée à celle des sages-femmes. Ainsi, la notion de toucher vaginal est décrite de l'Antiquité. En effet, dès la Grèce antique, la médecine hippocratique se développe et les connaissances théoriques s'accroissent. L'art de l'obstétrique et du toucher vaginal a certainement beaucoup évolué à cette époque. Soranos d'Éphèse, médecin grec, laisse sous-entendre l'existence de l'examen. Il dit « Elle, la sage-femme, doit avoir les doigts longs et fins et les ongles ras pour pouvoir toucher sans risquer de léser les zones enflammées profondes. » Au Moyen-Âge, la recherche et les concepts médicaux sont en déclin. Les sages-femmes, aussi appelées matrones, elles n'ont que très peu de connaissances théoriques et ont une mission essentiellement religieuse. La pratique du toucher vaginal à cette époque semble être mise de côté. C'est au XVIIIe siècle que Madame Le Boursier du Coudray, sage-femme indignée par la méconnaissance des matrones et baignée dans le siècle des Lumières, qui va former près de 3000 sages-femmes à l'art de l'accouchement. Le toucher vaginal redevient alors un examen clinique incontournable en obstétrique. Effectuer un bilan de santé intime, gynécologique et sexuel consiste en un toucher vaginal et un examen au spéculum. Comment peut-on, Pierre Marès, définir le toucher vaginal et l'examen au spéculum ?
Alors je dirais que la première des choses, c'est que l'examen physique n'est que le complément d'un examen, enfin plutôt d'un accompagnement et d'une écoute. Il n'y a pas d'examen sans avoir eu une écoute préalable. Or, trop souvent, comme vous le savez, il y a eu des enquêtes qui ont montré que l'écoute dépassait pas 5 à 6 minutes maximum pour aller vers un examen qui est quand même un examen, qu'on le veuille ou non, intrusif. Mais j'allais dire, on parle de l'examen gynécologique, on pourrait parler de l'examen de la prostate chez les hommes, qui est jamais guère mieux vécu, si on leur demandait, mais on leur a jamais demandé leur avis.
C'est toujours ça. Mais quand on leur demande, ils le vivent très mal.
Et ils le vivent pas très bien, surtout qu'en plus, ils n'ont même pas un regard sur l'examinateur, vu la position qui est nécessaire pour le réaliser. Donc sur le plan pratique, l'examen gynécologique ne doit jamais être fait rapidement, ne doit jamais être proposé immédiatement. Donc la première question, c'est 1. Quel est l'environnement dans lequel la femme est accueillie pour sa consultation ? Les locaux, la façon dont est positionné le médecin, la tenue du soignant. Il y a un minimum de tenue dans l'accueil des personnes. On n'arrive pas n'importe comment débrailler. C'est toute une façon de montrer à la personne qui arrive qu'on la respecte et qu'on la trouve digne de respect. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est de l'écouter pour comprendre quelle est sa question. Et tant qu'on n'a pas compris ce qui se cache derrière sa motivation, alors si c'est simplement une visite, docteur, je viens parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire une visite de contrôle. Ben, on va discuter d'abord ce que veut dire le mot contrôle pour cette jeune femme. L'écouter, essayer de comprendre et lui expliquer ce qu'est l'importance d'un suivi gynécologique. Et dans le suivi gynécologique, lui expliquer qu'il y a la partie de l'examen physique qui comprend l'examen des seins et aussi l'examen pelvien. Mais donc, à ce moment-là, vient la proposition de l'examen à faire. Et cet examen, s'il doit être fait, doit être aussi organisé dans des conditions adaptées. C'est-à-dire que si on veut faire de la gynécologie, il faut avoir un espace protégé pour que la femme puisse se déshabiller tranquillement et pas se déshabiller au milieu de la salle de consultation, qu'elle puisse se déshabiller par étapes, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir quelqu'un qui soit totalement déshabillé. Alors c'est vrai que le paradoxe, c'est qu'on voit des dames d'un certain âge qui, elles, viennent systématiquement totalement déshabillées en sortant du vestiaire, parce que pour elles, c'est comme ça, voilà.
Ça ne peut pas être autrement.
Ça ne peut pas être autrement. Et puis pour d'autres, ça demande un certain temps, et c'est pour ça que je dis souvent aux dames, ben, on va faire l'examen, vous pouvez garder votre chemisier, votre t-shirt, votre polo, ce que vous voulez, et on va faire l'examen avec l'examen des seins et l'examen pelvien. Et l'examen pelvien, on le lui explique. Et l'autre élément important, c'est de bien l'assurer que l'examen peut être désagréable, c'est jamais très agréable, hein, mais ça n'est pas douloureux. Un examen ne doit pas être douloureux. On peut avoir peur de l'examen, mais il ne doit pas être douloureux. Donc s'il faut avoir, si on met un examen avec un spéculum, il faut avoir les spéculums de différentes tailles pour que ça ne fasse pas mal. Faire respirer la patiente avant de faire un examen, parce que quand on a un examen, on est tous un peu stressés, les hommes comme les femmes. Et donc, si vous voulez, si on est stressé, les muscles sont contractés. Et si on met un spéculum sur des muscles contractés, on va faire mal. Donc ça, ce n'est pas normal.
D'accord.
Et ça, ça doit s'apprendre. C'est pour ça qu'à Nîmes, depuis 30 ans, il y a des cours sur l'examen gynécologique. Et je peux vous dire que certains, à l'époque, il y a 30 ans, m'avaient expliqué que je perdais mon temps à expliquer comment on faisait l'examen gynécologique parce que ça s'apprenait au décours. Donc aujourd'hui, le discours, c'est de dire jamais la première fois sur le patient ou la patiente. En l'occurrence, puisque pour l'examen gynéco, c'est les patientes. Donc l'examen gynécologique, c'est un contexte, une écoute préalable, et au passage, si c'est une jeune femme qui n'a pas eu de rapport, il n'y a aucune raison, c'est même interdit, de faire un examen gynécologique.
Justement, on y reviendra. Donc vous avez répondu en partie à une deuxième question, mais ce qui est important, ce que vous dites, c'est qu'en fait, l'examen gynécologique peut être fait en deux temps. Peut être fait d'abord, on peut examiner les seins, donc ça demande une unité partielle que des seins. Hein, donc on peut très bien examiner des seins. Comme en tant que médecin, il m'est arrivé d'examiner des seins. C'est vrai que si j'avais que les seins examinés, je ne demandais pas à la personne de se mettre complètement nue. Et dans un deuxième temps, un examen périnéal, un toucher vaginal, qui ne peut être là aussi qu'un déshabillage du bas. Et donc ce n'est pas une mise à nu complète devant le médecin qui peut être vécue comme quelque chose de violent.
Parfois ou, mal vécu.
Mal vécu. Et alors, comment se réalise dans les règles de l'art pour savoir un peu, parce qu'on parle toujours du toucher vaginal, etc., mais peu de gens savent comment se réalise un toucher vaginal, y compris les femmes, parce qu'elles le subissent, mais elles ne le voient pas. Les hommes sont complètement étrangers à ce geste. Comment se réalise dans les règles de l'art un toucher vaginal, et surtout avec les jeunes filles, vous avez répondu en partie, qui sont vierges, peut-on réaliser un toucher vaginal?
Alors, c'est assez simple. Alors, pour les jeunes femmes qui n'ont pas eu de rapport, il n'y a aucune indication à faire un examen gynécologique, sauf chez une jeune femme qui arriverait avec des saignements majeurs et pour lesquels il faudrait savoir d'où viennent ces saignements.
Donc, chez une femme qui est une jeune femme vierge, on ne fait pas de toucher vaginal.
C'est tout bête. Voilà, c'est tout simple. C'est carré, c'est simple. Et même le médecin doit poser la question systématiquement si elle a eu des rapports. Et si elle n'a pas eu de rapport, il n'y a pas d'examen gynécologique à faire. Alors ça, c'est recommandé depuis toujours. C'est même pas quelque chose qui est revenu à la surface dans les suites des réactions des gens. Sur le plan pratique, l'examen gynécologique, une fois qu'on a informé la patiente, qu'elle est en position gynécologique. Ensuite, il faut savoir profiter.
En position gynécologique, donc c'est sur le dos.
T'es sur le dos, les pieds appuyés sur des étriers et pas suspendus, parce qu'on n'est jamais, jamais confortable quand on est suspendu par les genoux. Donc les pieds sur les étriers. Les fesses doivent être descendues, mais ça, c'est toute une explication. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on examine d'abord le périnée, parce que s'il y a des écoulements, s'il y a une perte, on ne fait pas d'examen ou on fait un prélèvement.
Le périnée, la partie anatomique qui se trouve
entre les cuisses.
Entre les cuisses, à la naissance des cuisses.
En dessous de l'os qui est sur la ceinture du pubis. Et donc, à ce moment-là, on dit à la patiente qu'on va faire l'examen avec le spéculum. On lui demande de respirer, on ne pousse pas le spéculum comme d'un seul coup en disant « mais ça a toujours passé, voilà pourquoi on le fait ». Non, on prend le temps de l'expliquer à la patiente et que la patiente accepte l'examen. Et pour ce faire, on lui laisse le temps de se détendre par une respiration régulière et abdominale. Et on choisit le spéculum qu'on appuie sur les périnées. Et si on voit que ça lui fait mal, on prend un spéculum plus petit. On ne force pas brutalement. Et quand on a trouvé la bonne taille, la bonne détente, eh bien le spéculum à ce moment-là est introduit sans phénomène douloureux. On regarde, on peut faire un prélèvement pour les frottis, et tout le monde parle du dépistage. J'en profite pour insister sur le fait que le dépistage est quelque chose qui est essentiel et qui n'est pas dangereux et qui est remboursé et qui peut permettre d'éviter des risques de cancer chez les femmes ou des formes compliquées de cancer. Donc, à ce moment-là, on retire le spéculum et après vient ce qu'on appelle le toucher vaginal qui doit être fait avec un doigtier utilisant, si vous voulez, un gel comme pour le spéculum. Aujourd'hui, il n'y a plus de contre-indications et le gel permet justement d'introduire le spéculum sans gêne et sans douleur. Et le doigtier, l'examen va permettre d'examiner le col utérin, d'examiner les cul-de-sac à droite et à gauche de l'utérus et surtout de faire prendre conscience à la femme de sa sangle des releveurs parce que les femmes maintenant vont vivre 90 ans et il faut lutter contre les risques de descente d'organes ou d'incontinence d'urine dès le plus jeune âge et apprendre à contracter cette sangle des releveurs avant de se relever ou de changer de position. Voilà le déroulement d'un examen gynécologique basique qui doit être fait de façon systématique dans le cadre d'un suivi après l'existence des premiers rapports.
Vous avez évoqué la sangle des releveurs. Expliquez-nous.
Alors la sangle des releveurs, c'est en fait un système musculaire qui existe chez l'homme et chez la femme, mais qui est le seul soutien à la fois du vagin et des organes pelviens chez la femme, et qui suffit d'apprendre à utiliser de telle façon que ça réduise le risque de descente d'organes ou d'incontinence d'urine avec une technique simple, c'est-à-dire de serrer et de fermer l'anus. En fermant l'anus, cette sangle se met en contraction et réduit ce risque. Chez l'homme, ce problème est beaucoup moindre puisqu'il y a la prostate, oui. Il y a d'autres problèmes chez l'homme.
Alors, on a remarqué que le délai d'attente, la pudeur, l'appréhension, les Françaises sont nombreuses à renoncer aux soins gynécologiques. Les plus jeunes se tournent davantage vers les sages-femmes. Qu'en pensez-vous ?
Alors, pour revenir un petit peu sur votre précédente question, je vous dirais qu'il y a eu une enquête de l'ADRES, qui est une structure nationale, sur le vécu de l'examen gynécologique, en particulier pendant la grossesse, puisque j'avais été amené à répondre à des questions. Il faudrait revenir à la réalité des chiffres, c'est-à-dire que si 6% des femmes concernées trouvaient qu'elles avaient été pas informées, mal informées ou que l'examen s'était mal passé, 6%, il y en avait quand même 94% qui avaient trouvé qu'elles avaient été bien suivies et bien accompagnées. Donc si vous voulez, le problème...
Mais c'est important
je pense que c'est important de le dire parce qu'il n'y a pas que des femmes qui peuvent exprimer une maltraitance. Ça existe. Et il faut se battre pour la réduire.
Oui, il faut la réduire.
Mais je veux souligner là-dessus que les soignants, gynécologues, médecins généralistes, urologues et sages-femmes, ont une formation pour, dans la plupart des cas quand même, répondre avec respect et attention à l'examen gynécologique. Et pour revenir à votre question, moi je pense que du moment que les gens sont formés, je participe... puisque maintenant, il n'y a plus de directeur gynécologique, mais il y a un conseiller technique aux écoles de sages-femmes. J'allais dire, depuis 30 ans, comme je vous l'ai dit, à Nîmes, on fait une formation à l'examen gynécologique par les étudiants en médecine et les étudiants sages-femmes. Mmh. Donc, si vous voulez, les sages-femmes peuvent être formées pour faire un examen qui soit atraumatique, et en particulier, elles sont formées aussi pour le suivi pendant la grossesse, où là aussi, l'examen ne doit pas être traumatisant ni agressif.
Oui, parce qu'en plus, les femmes sont enceintes, donc elles ont peur pour leur bébé.
Et elles ont, voilà.
Et je me rappelle d'expériences de médecins où, lorsqu'on faisait des examens, on était toujours rassuré par rapport au bébé en disant n'ayez pas peur, le bébé risque rien, il n'y a pas de problème. Je me rappelle pendant mes remplacements où j'ai suivi beaucoup de femmes qui étaient enceintes dans les villages, était toujours très important de rassurer sur le bébé parce qu'en plus, l'examen gynécologique est important. Pour ça, il fallait rassurer pour le bébé. Je vous rappelle que vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus, 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes, en DAB+, ou sur radioallianceplus.fr. Nous recevons aujourd'hui Pierre Marès qui nous parle de l'intimité de l'examen gynécologique. Et je vous propose une pause musicale en écoutant un adagio, Jean-Sébastien Bach et Alessandro Marcello, BWV 974, Partis Eres. Nous recevons Pierre Marès aujourd'hui et qui nous traite de l'intimité de l'examen gynécologique. Alors actuellement, beaucoup de femmes vivent très mal le fait de subir un toucher vaginal. Enfin, on l'entend souvent dans les médias, dans les journaux, sur les ondes radio. Et comment, en tant que praticienne, expliquez-vous et le vivez-vous vous-même ?
Sur le plan pratique, ce qu'il faut savoir, c'est que cet examen n'a jamais été très bien perçu par les femmes. Et si vous remontez dans les dossiers historiques, je vous ai donné une référence de 2006. En 1985, il y avait une enquête qui avait été faite comme quoi l'examen gynécologique avait été mal vécu par les femmes dans 85% des cas. Elles étaient un petit peu subies. Oui. Et on s'était dit, avec l'échographie vaginale, ça va être mieux. Eh bien, si je vous donne les chiffres de l'équipe européenne qui fait le plus d'examens échographiques, qui est une équipe londonienne qui s'appelle l'équipe de Nicolaïdes, eh bien, cette équipe qui fait pas 50 000 examens par an, eh bien, malgré tout, les femmes vivent, parce que c'est quand même l'introduction d'une sonde échographique dans le vagin, elles vivent mal cet examen dans 50% des cas. Mmh. Donc, ce qui est important, on revient à ce qu'on avait discuté en début de rencontre, c'est que sur le plan pratique, c'est la préparation et le temps d'information pour que la femme le vive bien. C'est un petit peu comme quand on fait tout examen intrusif. Mmh. Et ça, il faut que nous, les soignants, ça c'est vrai, on n'a pas été formés. Alors, je vais dire à la décharge de tous les soignants, c'est que nous n'étions pas formés à cette approche. Pourquoi j'ai été sensibilisé ? Peut-être parce que, voilà, pour des raisons personnelles ou des attentions personnelles à certaines situations de vécu douloureux de gens que je connaissais, eh bien, j'ai appris à être attentif. Et ça, c'est peut-être parce que, m'intéressant aux douleurs pelviennes, je consultais en tandem avec une psychologue à côté de moi et qui m'a expliqué peut-être comment faire attention avant de faire un examen. Et c'est grâce à elle que petit à petit, j'ai compris que l'examen, quel qu'il soit, eh bien, il faut y faire attention et le préparer par l'écoute, l'information et des conditions d'examen qui le rendent supportable. Ça, c'est essentiel.
Alors, il y a quelque chose qu'il faut dire aussi, c'est que les hommes, maintenant, font des échographies prostatiques. Ils se trouvent dans la même situation. L'introduction d'une sonde intrarectale pour faire l'échographie de la prostate. Beaucoup d'hommes le vivent pas très bien, d'autres passent dessus, mais il n'y a pas ce courant.
Vous pouvez le rappeler, puisqu'on est deux hommes, oui. C'est que l'examen prostatique est un examen qui peut être même très douloureux. Voilà,
ça peut être très douloureux. Oui. Et est-ce que vous pensez donc que ce mécontentement existe et explique un phénomène de mode où c'est une véritable dérive, ou de la part des femmes, ou de la part des soignants, je suis volontairement provocateur?
Non, vous n'êtes pas provocateur. Je pense que, heureusement qu'il y a des émissions comme la vôtre qui permettent justement d'éviter de rester dans une attitude où on disait l'examen est nécessaire, donc on le fait n'importe comment parce qu'il faut le faire. Aujourd'hui, je dis souvent que l'examen gynécologique est un élément d'information puisqu'on dispose des échographies, des IRM qui vont permettre de faire un diagnostic qu'on ne fera pas à l'examen gynécologique. Donc l'examen gynécologique est nécessaire, mais il n'est pas seul utile. Et la deuxième chose, c'est d'éviter de tomber dans la dérive qui consisterait à dire on ne fait plus d'examen gynécologique. Donc, merci à votre émission, parce que justement, c'est cette démarche...
Merci à vous d'y participer et d'apporter votre expérience.
C'est cette démarche de la recherche de la qualité des soins proposés à quelqu'un, qu'il soit homme ou femme, et en particulier, on parle des dames là, en particulier, c'est que l'examen physique fait partie, à la suite de l'interrogatoire et de l'information, de cette démarche de prise en charge. Et il faut éviter de détruire ou de réfuter l'examen gynécologique parce qu'il est nécessaire, mais à sa place.
Alors, toujours pour être toujours provocateur, dans le courant un peu de ce qu'on entend à la télévision, sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut que les émissions répondent un peu au bruit de fond que les gens entendent, peut-on parler de violence obstétricale comme certaines femmes l'évoquent?
Alors, violence obstétricale, je pense que quand quelqu'un a vécu quelque chose comme ça, la première des démarches, c'est de l'écouter et d'essayer de comprendre pourquoi cette personne parle de violence. Alors, est-ce qu'il y a eu des phrases? Est-ce qu'il y a eu des attitudes? Est-ce qu'il y a eu des propos qui ont banalisé sa perception à elle? Et je dis souvent, quand quelqu'un dit « j'ai mal », c'est pas le soignant qui peut dire « c'est vrai ou c'est faux ». C'est toujours vrai pour le patient. Quand il dit « j'ai mal », on peut lui dire « nous, on ne sait pas comment vous soignez ». Mais on ne peut pas lui dire ce que vous dites, c'est faux.
La douleur existe toujours. La meilleure preuve, c'est qu'on se plaint. Voilà. Donc la plainte, c'est l'existence de la douleur.
Donc la première des choses qu'il faut apprendre aux soignants, c'est entendre ce qui est dit. Et après, il faut en discuter parce que je ne peux pas vous laisser dire que l'attitude obstétricale, la plupart des soignants qui ont fait des études pour être soignants ne l'ont pas fait pour agresser leurs semblables. Donc, gardons un peu de recul, essayons de regarder les choses. S'il y a des attitudes qui ne sont pas adaptées, il faut en parler et il faut les corriger. Par contre, dans la plupart des cas, je vous ai donné cette enquête ou les résultats, et même le rapport de SIAN, qui est l'association des usagers qui avait souligné ces problèmes de violence obstétricale. Là aussi, si vous regardez, il y a 85% de patientes qui avaient été interviewées qui avaient trouvé qu'elles avaient été correctement suivies. Donc on a 20% d'attitudes qui avaient été mal vécues, pas mal interprétées, mais mal vécues. Et donc il y a certainement des situations de violence, mais je pense qu'il faut bien répéter que l'examen gynécologique n'est pas une agression, c'est pas un viol. Ça peut être mal vécu, ça peut être douloureux, mais on ne peut pas l'associer à une attitude de ces mots-là.
C'est un peu la question suivante. À votre avis, pourquoi les femmes vivent-ils l'examen gynécologique comme un viol? Parce qu'elles vont de leur pied en gré quand même au cabinet du gynécologue. Et beaucoup de femmes, moi j'ai vécu en tant que médecin, dans les consultations, j'ai eu l'impression d'être violée ou m'a violée. Pour vous, c'est un manque de préparation. Vous nous l'avez dit, vous nous l'avez répété, c'est une pédagogie. Mais elles emploient le terme de viol, alors que... Qu'en pensez-vous?
Alors, je pense que le viol, c'est quand on a l'intention d'être agressif et de faire quelque chose de violent pour quelqu'un. Là, c'est, je dirais, un geste qui peut être traumatique, douloureux, mais sans intention de blesser ou de dévaloriser. Le viol, c'est l'utilisation de quelqu'un d'autre dans un sens personnel. Donc ça n'a pas la même démarche, ça peut être mal vécu. Il faut qu'on apprenne à décrypter la perception de la femme lorsqu'on fait un examen et de lui dire « si je vous fais mal », c'est un marché aussi, vous me dites « si je vous fais mal, on arrêtera immédiatement l'examen ». Et ça, c'est ce qui doit changer. Alors peut-être que les personnes, les dames qui ont vécu ces situations qu'elles évoquent, eh bien, elles n'avaient peut-être pas eu une préparation suffisante à cet examen et qu'elles l'ont vécu comme agressif, très agressif.
Et alors, de nouvelles recommandations des sociétés savantes précisent les conditions d'examen gynécologique parfois mal vécues par les patientes. Vous nous en avez déjà parlé, mais est-ce qu'il y en a de nouvelles que vous avez pas évoquées?
Par rapport à ce que je vous ai dit, les recommandations du Collège national ne font que reprendre ce que je viens de vous dire. Donc, pour moi, ça ne m'a pas surpris. Je dirais qu'à la limite, en tant que professionnel de santé, je suis un peu triste qu'on soit obligé de les répéter, mais ça prouve que, eh bien, on n'est pas toujours très bon, chacun de nous. On peut avoir des jours où on n'est pas particulièrement attentif et qu'on peut avoir un geste qui soit mal vécu.
Mais en pédagogie, mais il faut toujours répéter. Eh bien, il nous reste à vous remercier. Nous remercions infiniment Pierre Marès pour sa présence et ses précisions. Mais avant de nous quitter, ma rubrique de fin d'émission, des livres sur la santé aujourd'hui. Alors, « La vérité au bout des lèvres, combattre les violences obstétricales et gynécologiques », c'est un livre de Marine Gabriel. « Violences obstétricales coordonnées par Clémence Schwarz, Virginie Rosé et Pascal Moulinier, revue, cahier nu du genre numéro 71 chez L'Harmattan. Consentement et respect de la personne dans la pratique des examens gynécologiques ou touchant à l'intimité, avis adopté à l'unanimité des membres présents lors du comité plénière du CCNE, qui est le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, le 16 février 2023. Et vous pouvez consulter le site du Collège national des gynécologues et obstétriciens français. En attendant, prenez soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de Votre Santé, un trésor, sur Radio Alliance Plus, sur 103.2 FM. À bientôt, je reste votre bien dévoué.
Retrouvez nos coups de cœur musicaux sur la page YouTube de Radio Alliance Plus.